With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique. Numérique.
Studio 404, présenté par LAM UA.
Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Studio 404. Depuis les Studios 404, nos studios dans nos quartiers généraux à nous, bien sûr, au sommet d'une falaise donnant sur l'océan. On est bien au chaud, on est bien, on a plein de beaux sujets pour vous ce soir. Vous nous le rendez bien parce que vous avez plein de belles FAQ, plein de belles questions pour nous ce soir. Donc vraiment, on est heureux, c'est Noël avant l'heure. Et je vais accueillir bien sûr nos quatre chroniqueurs. Vous les connaissez, mais je sais que vous aimez entendre quand ils vous disent bonsoir. Donc je vais commencer par Fibre.
Bonsoir, c'est Fibre Tigre.
Voilà, oh là. Très très sensuelle ta voix Fibre, c'est ton voyage en Serbie qui t'a rendu...
C'est peut-être le moins 5 degrés d'aujourd'hui et le petit rhume, mais... Oui, non, oui, Serbie, j'ai un jogging serbe, les auditeurs ne peuvent pas le voir. Voilà.
Il est très beau.
On le montrera en gros sur notre nouvelle cover Facebook, ce jogging serbe vaut le détour. À côté de toi, Sylvain qui lui porte un t-shirt Saint-Etienne. C'est très sportswear ce soir.
Tout à fait, ce soir c'est thème sportswear. Je pense qu'avec Fib on s'est appelé en fait avant de venir pour faire matcher les garde-robes. Quoi.
Vous êtes très mignons tous les deux, on dit un petit virage nord là dans le stade, c'est très très chouette. Heureusement qu'en face ça joue la sobriété, noir-gris pour vos deux interlocuteurs en face et dont Mélissa. Ça va
et
bien
moi,
Mélissa
je suis très bien, je suis en robe en tant que fille de l'équipe.
Bah, je peux dire que si t'allais en robe en Serbie, il est très bien vite fait avec un petit challenger là, parce que c'est pas comme ça que les filles s'habillent là-bas.
Merci l'homme, j'ai très envie d'aller en Serbie.
Daz, ça va ?
Ça va très très bien.
Pas de jogging ?
Non, 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 je suis habillé en cambrioleur.
Non, t'es bien.
Normal, c'est dimanche soir.
C'est du beau, c'est du beau. Allez, on va vous chauffer tout de suite avec une petite FAQ.
FAQ.
On a été gâtés ce mois-ci. Je sens que notre émission en retard a aiguisé l'appétit, la curiosité et l'inspiration de nos auditeurs. On a plein de questions. J'ai envie de vous en poser deux par deux. Mais bon, ça va être compliqué. Alors, on va en sélectionner quelques-unes. La première vient de Benjamin Zanata sur Twitter et qui nous demande d'imaginer un titre de chronique que vous feriez en 2025. Alors, attention, fermez les yeux, frottez vos tempes, projetez-vous dans le temps ou la gravité. Je ne sais plus comment ça se passe maintenant, c'est compliqué.
Arrêtez de spoiler ce film.
Et comme toujours pas vu.
Non, mais je vois pas de quel film on a parlé. On parlait peut-être de Tortue Ninja. Même en 2025, Fibre sera un faillot. Alors, sa chronique prête avant tout le monde. Parce que Fibre a déjà levé sa main pour dire j'ai déjà ma chronique. Le mec, il est fou. Alors, qu'est-ce que tu fais dans 10 ans ?
Financement participatif. Deux points. Retour sur un échec.
Bravo. C'est possible.
Donc,
dans
t'y crois toujours pas. Hein, crois toujours.
Non, mais vous verrez en 2025.
Ah, d'accord, dans 10 ans. On verra. On prend date. Qui veut proposer sa chronique ? Déjà que vous avez du mal à proposer vos chroniques en temps normal, alors faut celle pendant 10 ans.
Non, moi j'ai le titre. Moi ça serait tout ça pour ça.
Tout ça pour ça. En fait, voilà. Ouais, ça aurait pu être ta chronique dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans.
C'est la prochaine de quand tu veux
la faire maintenant en fait.
Ça c'est une chronique du continuum en fait.
Tout ça pour ça.
Très bien. Alors, qui se lance entre Sylvain et Mélissa ?
Moi j'en ai une.
Allez, Sylvain.
Ils n'ont pas encore vendu toutes leurs données. Qui sont les marginaux qui ne sont pas encore 100% leurs données 100% à des entreprises privées.
D'accord. Qui sont ces
énergumènes, ces hippies de l'internet.
Ces hippies qui ont essayé de créer une plage de l'internet.
C'est ça.
La plage. Et toi, Mélissa ?
Comment partager ces données en 4 dimensions ?
Oh là là. Ça, on dirait plus une conférence web marketing de 2025,
ça
hein,
non ?
Ouais, ok, comment partager ces données en...
Influence interstellaire, comme nous tous.
En 4 dimensions. Chut, on n'en parle pas.
Mais tu l'as toujours pas vu, mais va le voir.
Moi, je l'ai vu, mais c'est y a toujours un relou.
Moi, je l'ai pas vu.
Bah va le voir, t'es à la bourre. Quoi.
Après l'émission, tu iras le voir. Allons, on commence tout de suite avec le premier sujet de Fibre Tigre.
Sujet numéro 1.
Le free-to-play, cette plaie que vous avez bien méritée.
Oh, mais dis donc. Tu vas pas être free to play ?
Oui, j'ai bien biberonné le free to play en Serbie parce que c'était la Casual Connect
Et alors, attends, tu as biberonné free-to-play en Serbie à la Casual Connect. Là, ça fait beaucoup de...
On va parler free-to-play F2P. Ouais. Et je vous spoil direct, ce n'est pas un surnom d'oiseau propre à la banlieue du 9-4.
Si, si. Aussi.
Alors, petit poème. De tout temps, virgule, les hommes ont acheté des jeux vidéo comme on achète des pommes, comme on achète des vélos.
On claque des doigts, parce que c'est une soirée poème, une soirée poésie.
C'est-à-dire en échangeant le produit contre de l'argent. Et du coup, c'était pas vous le produit, sinon on vous expliquera. Donc, ce modèle est appelé le premium. Mais il existe un modèle alternatif, le freemium, qui, comme son nom l'indique, propose un jeu vidéo gratuit. Et c'est ce qu'on appelle le free-to-play.
Ça, c'est la partie free du freemium.
Mais comme dans ce monde, there is no such thing as a free lunch, ces jeux gratuits comportent soit de la publicité, c'était le cas de Flappy Bird,
exactement,
soit des achats intégrés, c'est-à-dire que vous pouvez débloquer des options dans le jeu en payant.
Ça, c'est le cas de tous les jeux actuels, quasiment.
Quasiment. Mobile, ouais. Du point de vue du bon sens paysan que nous aimons ici à 404, avec les mains pleines de terre, le modèle premium a des avantages. Vous achetez votre argent, avec votre argent, un jeu fabriqué avec des mains d'artisans. Comme dirait Jean-Pierre Coff, c'est bien. Mais surtout, premier point, en moyenne, pour les freemium qui réussissent, on paye au final plus que le prix moyen d'un jeu. C'est-à-dire qu'un jeu...
Un jeu premium.
Un jeu, c'est 60-70 euros. Les joueurs, en moyenne, les joueurs réguliers de Hearthstone mettent au moins 100 euros dans le jeu. Ouais. C'est-à-dire que l'éditeur est gagnant. Le deuxième point, le freemium, pour vous encourager à cracher au bassinet, altère la mécanique de jeu pour qu'elle soit plus difficile pour l'épingre. C'est ce qu'on appelle le pay to win. Vous n'avez donc pas un jeu dans sa pureté de plaisir ludique, mais un jeu orienté pour vous faire payer. Et troisième point, le freemium repose sur des mécaniques d'addiction. Et l'addiction au jeu, c'est interdit par le premier commandement donné par Dieu à Moïse. Tu ne vénéreras point d'idole autre que l'Éternel. Face à ce terrible constat, je veux poser une simple question.
Moïse. Vas-y, continue.
Je veux poser une simple question. Pourquoi pas ?
Why not ?
Mais pourquoi pas,
alors,
les amis ?
Alors, depuis tu nous descends le truc pour nous dire, en fait, c'est pas mal.
Mais 80% du chiffre d'affaires de l'App Store vient des achats intégrés.
Ah oui, quand même. Donc, c'est même plus un modèle alternatif. Ça devient de modèle dominant, là.
Voilà. Non seulement il est dominant, mais je vais donner une anecdote vraiment caractéristique du marché. Une des plus grosses ventes mobiles premium de l'année, et l'âme, tu en as parlé sur ton blog, Monument Valley.
Très beau jeu.
Un jeu magnifique. Pas cher. Il annonce ce mois-ci un contenu supplémentaire, donc des nouveaux niveaux, pour un prix fixe de 2$. Donc on est dans le modèle premium.
Ouais.
Et le jeu se fait insulter par les joueurs qui disent « Mais on ne va pas racheter un jeu qu'on a déjà, c'est n'importe quoi. » Alors que s'il avait fait en douce avec de l'argent virtuel et des blocages, et ben, personne n'aurait rien dit. En parallèle, il y a Assassin's Creed Unity qui est un jeu premium qui sort. Et dedans, il y a des microtransactions.
Donc lui fait les deux.
Ouais, c'est-à-dire que
voilà vapeur lui.
Non mais là il y a de quoi s'énerver. Il y a de quoi s'énerver, mais c'est pas sur ce quoi Mélenchon s'est énervé. On s'est parlé de la réalité historique des bugs, mais là genre on en parle plus. C'est complètement admis. Mais en fait, le freemium, il est là, il est installé sur votre canapé, il a deux bières dans le frigo. Il est déjà copain avec votre chien. Voilà. Mais que je veux dire, il faut voir quelque chose, c'est que déjà il y a bien longtemps, les gens, ils payaient des Chinois pour qu'ils levelent leur perso sur World of Warcraft, donc exactement, ils gagnent des niveaux, pour aller plus vite, pour aller directement à la fin. Le freemium, c'est pas une créature des Stormtroopers clonés de Sylvain Palais, du marketing, qui sont là, comment faire payer les gens ? Non, c'est venu des joueurs qui ont dit, on le veut.
Donc il y a quand même une acceptation des joueurs, même si on a l'impression que tout le monde râle dessus.
Mais non, c'est une demande des joueurs. C'est-à-dire que la majorité des joueurs le veulent. C'est pour ça qu'on leur donne. C'est la simple loi de l'offre et de la demande, sans biais. Et effectivement, on peut le comprendre. Si le temps est effectivement plus précieux que l'argent, si finir un jeu apporte une satisfaction et une reconnaissance sociale, est-ce que le freemium, c'est pas le moyen le plus simple pour obtenir un certain plaisir de jeu ?
Ah, donc en fait, tu défends... Toi, Fibre, pour resituer un peu la chose, toi qui as créé un jeu premium, donc un jeu qui était vendu sur mobile mais qui n'avait pas de contenu payant, toi tu défends le freemium maintenant.
Alors,
ça t'a changé ce voyage en Serbie.
Toute ma vie, je ferai du premium pour la simple raison que je suis trop petit. Il faut vraiment être très très gros pour faire du freemium.
D'accord.
Mais
tu trouves que le modèle économique fait sens. Il n'est pas jojo, mais
c'est pas ça, mais les joueurs le demandent, alors pourquoi pas leur proposer ?
D'accord. Est-ce que
parmi ceux qui jouent ici autour de cette table?
Ils sont nombreux.
Il y a des gens
tant de choses à dire.
Daz, toi, tu es plutôt à accepter aussi ce fameux modèle du freemium.
Non, je le hais, je l'aborde. C'est d'ailleurs pour ça que je joue de moins en moins en fait sur App Store, parce qu'il y a de moins en moins de jeux
sur mobile, tu veux dire?
Sur jeu mobile via l'App Store. Parce qu'en fait, il parle du pay to win. Il y a aussi le juste pay to play. C'est-à-dire que tu fais trois courses dans un jeu en freemium. Et puis on te dit, maintenant, t'attends une heure et demie avant de faire la quatrième, ou alors tu payes un euro.
Pour acheter l'essence.
Et voilà, je trouve ça, complètement scandaleux.
C'est une prise d'otage.
Ouais, c'est dégueulasse. Moi, dès que je vois un jeu dont le modèle économique est le freemium, je le prends pas, en fait.
D'ailleurs, on a vu que Google et Apple ont été obligés de changer l'appellation de ces jeux freemium.
Il n'y a plus marqué gratuit.
Il y a marqué get ou obtenir.
Il y a marqué obtenir. J'ai vu ça justement avant-hier. Je me suis dit, tiens. J'avais jamais tilté puisque ça faisait une paye que j'étais pas allé sur l'App Store ce modèle c'est de la merde.
D'accord.
Je me permets aussi d'adresser, Fibre Tigre a parlé d'Assassin's Creed Unity avec les achats in-app dans le jeu que tu payes 70 balles. Il y a aussi une grosse apparition de tout ce qui est Season Pass ou les choses comme ça.
Alors Season Pass, juste pour ceux qui ne connaissent pas,
c'est le fait de prépayer tous les DLC en fait du jeu.
Alors en fait,
DLC c'est quoi?
C'est comme dans Lost, on demande une réponse et tu viens de poser deux autres questions.
En fait, le Season Pass, pass saisonnier, si tu achètes un jeu à plein prix, à 70€ ou 60€,
ils te vendent encore ce qui s'appelle des
contenus. On te vend en fait les contenus additionnels qui normalement ils les sortaient tous les 2 ou 3 mois à une dizaine d'euros, 15€. Et là en fait, dès le départ, avant même de savoir de quoi vont parler ces contenus additionnels, tu les payes. C'est-à-dire que toi tu dis, moi je paye 30€ de plus. Pour avoir les quatre contenus additionnels prévus sur l'année, en fait.
Avec un bonus de machin, exclusive, un truc.
Et c'est complètement dégueulasse.
Une petite carotte, 4 fois, tu prends une grosse carotte.
C'est que ça crée un gaming à deux vitesses. C'est-à-dire que moi, par exemple, je joue à Battlefield 4. Maintenant, je peux plus jouer avec mes potes.
Parce qu'ils sont
tous premium, les mecs. Voilà. Donc, moi, je peux pas jouer. J'ai jamais les maps. Moi, je suis sur le jeu vanilla, comme on dit, et je joue tout seul. La tristesse du truc, quoi.
Et toi, Sylvain, alors?
Moi ça dépend en fait. Le modèle me dérange pas en soi, mais quand ça change la mécanique du jeu pour vraiment intégrer le truc, moi ça me pose un problème.
D'accord.
Quand tout est organisé comme ce que tu disais sur les circuits où tu dois attendre 1h30 ou payer 1€ pour pouvoir rejouer, etc. C'est de la prise d'otage du joueur, quoi.
Ouais. Donc là non. Non. Mais sinon le modèle en soi te dérange pas?
Non, j'aime l'argent moi, donc il y a pas de problème.
C'est bien connu.
Par contre Assassin's Creed Unity, je savais pas qu'ils avaient mis
Ils ont fait la totale.
C'est quand même des bourrins, quoi.
Surtout une com aux petits oignons, du bout en bout.
Je me demande s'il y a pas un season pass en plus, tu vois, Assassin's Creed Unity, histoire de tout cocher, quoi.
Mais le season pass ça a toujours existé à l'époque en 1990. Ça s'appelait le data disc.
L'extension. C'est vrai, il y avait des extensions.
Oui, mais du coup, tu avais le choix, en fait. Tu savais ce que tu payais, parce que quand on te demandait de rebanquer, tu savais pourquoi. Là, tu acceptes de payer à l'aveugle. Tu as aucune idée des maps qui vont être ajoutées, du contenu qui sera présent, des scénarios.
Tu peux les acheter en petits morceaux, si tu veux.
Mais c'est plus cher.
Je préfère.
Mais c'est plus cher.
Les extensions des Sims, les add-ons des Sims, à l'époque, quand ils en sortaient à chaque fois, est-ce que ça c'est considéré comme du contenu payant ou comme à chaque fois un nouveau jeu?
C'était du contenu payant, mais en fait ça ne changeait pas l'expérience originale des Sims. Là, c'est vrai que là on parle de mécanique qui altère ta manière, qui te freine de ta manière de jouer. Par exemple, si dans les Sims on te dit au bout de 25 minutes si tu veux avoir un nouveau membre dans ta famille, il faut raquer, il faut attendre 2 ans.
Mais aujourd'hui on cisèle les jeux, on commence à acquérir de l'expérience pour que justement on paye sans s'en apercevoir. Hearthstone, typiquement, Hearthstone, je connais au moins 2 joueurs là autour de la table, qui, je ne me compte pas dedans, qui ont payé et qui paye avec le sourire, n'est-ce pas?
Non, justement, j'ai essayé de jouer le plus longtemps possible sans raquer, moi.
Attends, alors, Mélissa, ton avis m'intéresse.
C'est le moment. Attendez, on a oublié de poser une question.
Mais non, justement.
Tu étais là, Mélissa.
Tu as peut-être un point de vue.
Justement, ton avis m'intéresse parce que, sans parler de jeux vidéo, parce que tu ne joues pas spécialement aux jeux vidéo, mais du modèle économique du freemium, parce que c'est un modèle économique qu'on est en train d'envisager aussi sur d'autres secteurs et pas que dans le jeu vidéo. Donc, on commence à parler d'offres premium, d'accès à des archives, d'accès à du contenu exclusif à des abonnés pour du contenu.
C'est vrai que la presse, en tout cas, le fait beaucoup. Après, c'est moins frustrant sur la presse parce que souvent, les gens vont sur plein de sites et se retrouvent jamais face au moment où ils doivent raquer pour voir des trucs.
Mais si, à chaque fois que tu... Ça, c'est la spécialité de Mélissa. Elle envoie toujours des liens vers Le Monde et t'arrêtes sur l'article du Monde.
Ok, dans Le Monde. Péter,
ça. Et t'as le titre et puis après, t'as le truc, il fait un dégradé
parce
au volant.
Mais parce que, non, mais Le Monde, justement, j'ai eu envie de payer parce que je sais que c'est un truc où je trouverais toujours du bon contenu. Moi, ce qui me stresse, c'est quand je suis face à un site où, genre, au bout de 3 articles, alors que je... un article sur deux n'est pas très bon, il faut que je paye. Et là, je me dis, putain, là, ça se trouve, c'est un bon article et j'ai pas envie de tout payer parce que tout n'est pas bon. Le Monde, je sais qu'en général, je peux fermer les yeux, donc j'ai payé mes 15 euros. Quoi.
Est-ce que tu serais prête à avoir des mécaniques, comme on voit dans les jeux vidéo, dans des sites de contenu, qui seraient, par exemple, acheter des crédits pour débloquer des choses, débloquer...
Ouais, mais c'est comme dans les jeux vidéo, il faut que ce soit fait de telle sorte que tu le sentes pas trop. D'accord. Ou que le jeu soit tellement bien que t'aies envie de donner, que t'aies pas à attendre. Enfin,
c'est
tu vois,
fou parce que
ça
les gens...
recrée pas un truc de caste en fait.
Elle est en train de dire, je suis ok pour qu'on m'arnaque si je le vois pas. Ce qui est là, je suis ok
qu'est-ce
pour.
Qu'est-ce que tu racontes Mais non, je dis pas ça.
Je suis ok pour.
Explique-moi pourquoi je viens de dire ça.
Eh ben, tu passes d'un modèle où tu as quelque chose gratuitement et tu dis, je suis prêt à payer, mais je veux pas le sentir.
Ah. Mais non, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit. Je dois payer pour les médias. Non, mais...
Si.
Non, mais non, j'ai dit, je veux du contenu, ouais. On m'en donne gratuit, parce que tous les sites internet de presse ont fait souvent du contenu gratuit, ouais. Et tout d'un coup, on s'est dit, on n'a pas d'argent, donc on va peut-être mettre des murs payants. Et donc, à ce moment-là, moi, je veux payer pour les trucs que j'aime. Donc, quand je paye, c'est pour les trucs que j'aime. Je n'ai pas payé pour l'Express, par exemple.
Mais ça tombe bien, j'en parlerai tout à l'heure de l'Express.
Coucou l'Express, coucou les francs-maçons. Alors, on doit terminer ce débat, mais j'avais juste une petite question rapide. Qu'est-ce que vous pensez des bornes d'arcade des années 90? C'était un peu du... C'est un peu du payant, puis il fallait rajouter pour aller plus loin. Et puis...
Ouais, mais c'était considéré comme un jeu d'arcade en fait.
Oui, l'expérience de jeu était assez unique.
Tout le système de jeu était fait pour que tu perdes assez vite et que tu aies envie de.
Ouais, mais le principe de l'amener à la maison, c'est justement qu'on enlevait ce.
Oui, mais justement, les bornes d'arcade et celles d'arcade, est-ce que c'était. Vous considérez ça comme de l'arnaque?
Non.
Parce que t'avais le jeu complet.
Si t'étais bon, t'allais au bout avec un crédit.
Non mais en plus l'expérience c'était Daytona USA à 8 dans une salle de c'est quelque chose d'extraordinaire. Je
non mais on parle d'autre chose. Là on dérape dans la nostalgie, on s'arrête là.
Mais pas du tout.
FAQ.
Allez, une seconde FAQ de nos auditeurs pour respirer entre deux débats. J'en ai des pas mal. Alors, est-ce qu'on n'éduquerait pas les enfants à la vie en société avec un MMO? Comme ça ils voient bien ce que ça fait quand ils font leur petit con, nous dit Red Marmotte. Alors, est-ce que si tu dirais aux gamins, ok, au lieu d'avoir des cours de récré, tout le monde va se foutre sur un jeu en réseau et puis c'est ça l'école de la vie.
C'est le meilleur moyen d'apprendre à devenir un connard en fait.
D'accord.
Instant de survie quoi.
Joue à Dota, deviens un connard à 10 ans. Hey, super. Non, je pense pas que ce soit la bonne formule.
Ok, d'accord. Mais dis ça, des jeux vidéo pour éduquer des enfants, enfin des jeux vidéo en réseau, en société.
Ça développe peut-être ton instinct de survie, mais la cour de récré, c'est un peu ça quand même. IRL, genre.
Je pense que la cour de récré, c'est un mémo qui est bien, bien dur. Hein,
tu joues au
c'est
foot. Fleury.
Fleury plus data disc.
Ça changerait pas grand-chose en fait.
Sylvain.
Pas des MMO genre WoW ou Dota, tu vois, pas des trucs comme ça, c'est pas possible. Mais des jeux conçus pour éduquer les enfants, pourquoi pas, pour les faire travailler en collaboration. Par exemple, si l'école Montessori sortait un MMO, tu sais, où tu dois faire travailler ta créativité, machin, je pense que ça peut fonctionner.
Ah,
mais il faut que ce soit bien designé, quoi.
Fibre.
Alors, ça existe déjà. Dans une école à New York, tout à fait, où il y a un programme expérimental dans lequel les jeunes ne font que toute la journée un MMO éducatif.
C'est intéressant ça.
D'ailleurs, oui, j'ai écrit un article pour toi dans Wired France à l'époque.
C'est vrai.
Ouais, tout à fait. Voilà, c'était parti. C'était il y a 3 ans. Alors, je sais pas où en est le programme, mais en tout cas, c'est à l'étude et c'est pas bête. Moi, j'ai tendance à dire que la vie est un jeu dont on doit découvrir les règles. Voilà.
Plaisir.
C'est beau. C'est beau.
Plaisir. Allez, on attaque la deuxième chronique tout de suite.
Sujet numéro 2.
Du jamais vu. Plonger dans le web oublié.
Boum! Daz, est-ce que t'as vu cette petite titre qu'on t'a préparée?
Ouais, et je me rends compte qu'elle est fausse. Parce que plonger dans le web oublié, pour l'oublier, il faut déjà l'avoir vu. Donc il y a un petit problème paradoxal dans ce titre qui va imploser en fait.
Hashtag Interstellar, allez hop.
Alors justement, on va rester dans les métaphores galactiques, n'est-ce pas? Puisque un peu comme la matière noire, qui est donc omniprésente dans l'univers, pour ceux qui le savent et qui s'intéressent un peu à ce qui se passe autour de nous, Internet est composé à 90%, j'avais mis 90%, je pense que c'est plus 99,9% en fait, de trucs qu'on ne verra jamais.
Voilà. D'accord.
Et pour faire face à cet amas galactique de données, il faut s'en remettre à la curation, qui permet, telle l'étoile polaire, d'aider nos navigateurs à nous mener à bon port.
Oh, c'est beau. C'est comme ça que tu dragues les meufs ou pas, Daz?
Le dézoom. Non, je peux plus. Ça, je... Joker.
Regarde le ciel.
Enfin, plus exactement, vers le bon port le plus visité par les autres matelots numériques qui voguent aussi sur cet océan d'informations. Et comme dans tout port qui se respecte, il y a les trucs populaires, les bordels, et le reste, le cabinet comptable. Le souci, c'est que sur Internet, ce reste, il est invisible. Alors que dans la vie, le reste, bah, il le reste, ouais. Justement. C'est pour ça qu'on l'appelle le reste. Et qu'il suffit en fait de prendre du recul pour le voir à nouveau, le reste. Et je citerai en cela l'école de pensée Vitriot, qui a dit à un moment donné, sur la vie de ma mère, quelques pas en arrière et c'est réglé, t'inquiète pas. Donc là, Rof prouve bien que lui aussi est un adepte de la prise de recul, qui lui permet de balancer un coup de pied tournoyant dans la gueule de l'opposition. Mais sur Internet, point de recul possible, puisque bah si oui. Tu recules trop, tu vois plus l'écran. Du coup, si on sature des vidéos...
trop de couches de métaphores entre les métaphores.
Elles sont imbriquées, là, je suis... Du coup, si on sature des vidéos aux milliards de vues, comme le Gangnam Style, comment revenir à l'essentiel? Comment se recentrer sur l'humain? C'est là qu'intervient donc le web de l'oubli, mais pas de l'oubli, le web de l'inexistant, on peut dire.
L'inexistant. Alors c'est quoi?
Alias le web des vraies valeurs, alias le web de la modestie. Et donc l'objectif de ce web, c'est trouver ce qui n'a pas marché sur les plateformes de contenu. Et quand je dis pas marché, attention, c'est selon les standards qui permettent à ces plateformes de contenu de valoriser un contenu, justement. C'est-à-dire que ce n'est pas la qualité intrinsèque du
d'accord.
Produit.
C'est juste sur l'audience.
Voilà. Et force est de constater qu'actuellement, sur des plateformes comme YouTube et Spotify, il n'y a absolument rien qui est fait en standard pour filtrer les vidéos ou les chansons par les non-vues ou les non-écoutes.
Ce sont toujours des tops. Du numéro 1, mais jamais du numéro
voilà,
dernier.
C'est ça. Et donc ça illustre exactement ce qui déconne dans ce monde fou, qui part à sa perte. Par exemple, sur YouTube, au moment où j'ai rédigé cette chronique, c'est-à-dire ce matin, sur la rubrique populaire en France, j'avais le trailer de Star Wars 7. No spoiler, malgré un sabre laser. Une pub américaine qui utilise les mignonnes de Moi, Moche et Méchant. Donc je comprenais pas ce que foutait la pub pour les cinémas AMC. Mais c'est juste parce qu'il y a les mignonnes dedans, donc voilà, ça pose en France. Booba qui répond à Caris, qui avait dû répondre à Booba quand il répondait à Caris.
Ouais.
Une vidéo intitulée Far Cry 4 sur la chaîne Cyprien Gaming, où en fait on voit juste des abrutis faire du paintball, mais on voit jamais le jeu. Et puis Nabila filmée à la prison des femmes de Versailles. Donc ça, c'est le top 6 de YouTube pour la France.
Bah ouais.
Là, donc niveau néant et culture et clickbait, là c'est un peu chaud. On se croirait sur la homepage de Melty en fait. Alors qu'apprend-on de tout
coucou
ça?
Coucou Melty, coucou l'Express.
Qu'apprend-on de tout ça? Absolument rien. Alors que en tapant, et je l'ai fait ce matin, donc là maintenant ça sera mort, mais bon, moi quand je l'ai fait ça marchait, en tapant bouture tulipe, ne demandez pas pourquoi. Je suis tombé.
Le tag parfait.
Je suis tombé en premier résultat sur une vidéo à zéro vue. Ah. Posté par un compte qui s'appelle Soin des arbres.
Soin des arbres.
Alors ça, cette vidéo-là, donc à zéro vue, explique en 2 minutes par le truchement de la synthèse vocale de Google.
En plus,
comment réaliser des boutures de tulipes. Voilà, c'est simple, efficace et un petit peu creepy.
Prenez l'arrosoir.
Non, mais c'est ça. Prenez avec tous les problèmes de traduction, donc c'était complètement bizarre. Et donc ça. Là, en voyant ce truc-là, je me dis, ok, donc en tapant un truc à zéro vue, j'apprends quelque chose. Alors que sur les 6 autres trucs, j'apprends que dalle, en fait. Hein. Mais heureusement, la justice existe et des tentatives pour mettre en avant le fond de cuve ont vu le jour. Je dis fond de cuve parce que c'est vraiment
le... fondcuve.tumblr.com.
Donc là, le premier Tumblr, c'est un Tumblr qui s'appelle Zero Views, qui recense toutes les vidéos. Alors les meilleures, il dit lui-même, les meilleures vidéos à zéro vue de YouTube.
C'est génial. Comment ils ont fait?
Je sais pas comment ils ont fait. Pour moi, c'est de la sorcellerie.
Ce qu'ils ont fait, c'est que le site, il marche plus, quoi.
Et oui, le site, il est dead depuis un an et demi.
De toute façon, en fait, c'est un site qui se suicide lui-même parce qu'au moment où il dit, tenez, des vidéos à zéro vue. Bah, elle n'existe plus pour le site. Bon, bref.
Ouais. C'est exactement ça que je trouve assez beau dans cette.
Oui,
dans
une
cette
sorte de poésie.
Ouais, c'est génial. Et puis, alors pour les vidéos donc à zéro vue sur Dailymotion, bah c'est pas compliqué. Il suffit d'aller sur la homepage de Dailymotion.
Y a pas coucou Dailymotion, coucou Métis, coucou l'Express.
Pour Spotify, on a le site qui s'appelle Forgotify, donc forgotify.com, qui permet de sélectionner au hasard des morceaux à zéro écoute. Donc là, il y a pareil.
Des morceaux à zéro écoute.
Ouais, j'ai fait le premier test, je suis tombé sur un morceau un peu bizarre qui s'appelle Prélude et Fugue en Do majeur, d'un gars pas trop connu qui s'appelait Jean-Sébastien Bach. Bon, voilà. Alors c'est sûr, c'est pas Justin Bieber ou One Direction, mais j'aurais pas pu rêver mieux pour prouver mon point.
Ouais.
N'est-ce pas? Voilà.
Eh ben dis donc. Il y a plein de choses à explorer.
Mais en fait, il y a énormément de trucs et je pense que c'est le modèle. Qu'est-ce qui fait qu'un truc est populaire? C'est ça qui fout le truc en l'air, en fait.
Ouais. Mais est-ce que surtout, je demandais à vous, les chers chroniqueurs, est-ce que vous trouvez une certaine, comme disait Dan, une certaine poésie ou un certain intérêt à aller dans ces contrées qui ne sont pas des contrées lointaines, qui sont des contrées proches, mais qui sont des contrées où l'homme n'a jamais foulé pied. Je sens que Sylvain...
Ah ouais, moi j'adore ce genre de truc. Ouais.
Chantre de la sérendipité.
C'est ce genre de truc que j'aime bien. Mais d'ailleurs, tu dis que c'est pas mis en avant sur les plateformes, mais il me semble que sur YouTube, si. Non. Ah si ouais. Tu vas sur youtube.com/1,
c'est vrai.
C'est un feed de toutes les vidéos uploadées qui ont qu'une seule vue.
Oui, mais donc ça veut dire que c'est pas mis en avant parce qu'il faut connaître l'URL.
Ouais,
tu l'as trouvé où ça
c'est... Je sais plus, ça tournait.
Et si tu fais /0, est-ce que tu aurais des.
Je suis pas sûr qu'elle y soit, non. Mais d'ailleurs, je comprends pas les vidéos à zéro vue.
Ouais,
parce que tu mets ton truc en ligne, ouais, hop, tu te casses. Même pas, tu vas la regarder voir si elle s'est bien uploadée ou pas. C'est, ouais. Ah, c'est fait.
Mais je sais pas si YouTube il comprend pas quand c'est toi qui a uploadé que justement tes vues ils les comptent pas dans
mais
le compteur.
Mais si, compte, parce que. Fin...
Je crois pas, il me semble pas. Hein.
Peut-être c'est des processus automatiques d'upload. Hein.
Ouais.
Possible aussi.
Mais il y a eu la même chose, je crois que sur Instagram, il y a aussi un compte Instagram qui recense toutes les photos qui n'avaient pas de vue. Qu'est-ce qu'on a vu encore de choses comme ça complètement oubliées
Bah, pareil sur l'App Store, moi.
Les Kickstarter qui avaient levé 0$. C'est très, très dur, ça.
Ça, c'est dur, ça. Quoi.
Ça, c'est le web de l'oubli, mais que.
C'est
le web de la loot. C'est souvent des mecs qui vont écrire des mémoires d'eux-mêmes et savoir ce qui veut financer ça. C'est hyper dur. C'est très, très dur. Ouais, donc il y a quand même une petite poésie, mais est-ce que, au-delà de la poésie, est-ce qu'il y a quand même un vrai intérêt, ou est-ce qu'en général il y a aussi une sorte de justice, une sorte de comment dire de darwinisme d'internet qui fait qu'à un moment quand t'as contenu à zéro vue c'est qu'il n'en vaut pas la peine.
C'est ce que je pensais, mais en fait non, puisque Cyprien Gaming c'est nul. C'est nul. J'ai eu. C'est pas pour toi. 4, c'est nul.
Oui, mais ça c'est ton point mongolisme, mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Parce que c'est pas toi le client.
Putain, c'est incroyable.
C'est pas toi le produit.
Fibre.
Alors moi je voudrais revenir sur la poésie.
Oui.
Parce que quand
tu claques des doigts encore ou pas.
Non, quand il y a eu Google Maps.
Je voudrais poser un slam.
Quand il y a eu Google Earth, excusez-moi, on connaît la surface de la Terre à 30 cm près, ce qui est terrifiant parce que moi quand j'étais petit, je rêvais
d'explorer.
De trouver une cité d'or, voilà. Et, ou, je sais pas, en tout cas de trouver quelque chose, un continent inconnu.
Ouais.
Et là, ce que dit Daz, ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, est-ce que la chose inconnue qui nous reste à découvrir, c'est pas notre propre culture? Et est-ce qu'il n'y a pas, dans les 99% des choses qui sont inintéressantes, un trésor, le fameux trésor dont les éditeurs parlent? Tu sais, on a découvert Lori, soi-disant, c'est du mensonge, bien entendu, c'est des créatures complètement de producteurs, mais peut-être qu'il y a le trésor, il est là, mais il faut creuser dans la mine de charbon pour trouver le diamant.
Ça veut dire que tu peux tomber sur une Lori et tu peux déterrer un monstre.
Tu peux créer un truc. Tu peux réveiller un kraken.
Non, mais voilà.
Ouais, mais c'est très bien cette approche.
Et pour en revenir là, les fameux curateurs tumbleristes et tout qui se branlent toute la journée, ils ont découvert du contenu alors qu'ils reparlent tous de la même chose tout le temps, on n'en peut plus. Et ben, c'est leur responsabilité, leur boulot s'ils ont des tripes, voilà, d'aller dans ce néant-là et de trouver ce qui nous manque.
Je
suis
d'accord.
Et là, on vous respectera.
Mélissa, toi qui pour Reader.fr défriche aussi beaucoup de contenu, mais souvent du contenu un peu plus connu, on va dire.
Ouais. Mainstream, toujours.
Je vois beaucoup de choses qu'on publie pas, naturellement.
Oui.
Mais en fait, oui, en fait, il faudrait, moi, je pense qu'il faudrait vraiment des gens pas comme moi, parce que effectivement, nous, on curate l'internet accessible, disons, mais des gens qui vraiment dont le métier, c'est vraiment de creuser, parce que effectivement. Si Cyprien il a tant de vues, c'est parce qu'en fait il a constitué sur les 10 dernières années son audience. Mais en fait, on préfère voir. Années, ouais. C'est comme au cinéma, on préfère voir le gros blockbuster où on en est à l'épisode 7 de Star Wars que sur le web, on aller sur le vieux blog écrit en Comic Sans en rouge sur vert et tu fais genre ah non, j'ai pas envie de lire ce texte parce que ça a vraiment l'air complètement nul. Et en fait, ça se trouve des fois, tu tombes sur le truc.
Attention avec Star Wars quand même. Attention. Première avertissement.
Ça a rien à voir avec mon truc. Enfin bref. Du coup, franchement, c'est comme tous les mecs qui font des fanzines dans leur coin. Il y a des trucs géniaux, mais personne les voit jamais parce que là. Internet permet le truc de tu peux aller voir la vidéo à une vue ou deux vues, et je suis sûr qu'il y a des trucs, mais de ouf. C'est juste qu'on n'a pas le temps, quoi, parce qu'il y en a énormément.
T'es plutôt d'accord avec Fibre sur le fait qu'il y a une sorte de chasse au trésor potentiel.
Bah, ce média existe depuis quoi, 30-40 ans maintenant? Il doit y avoir des trucs de ouf, juste qu'on n'a jamais vu.
Question quand même, qui se contente de zéro vue quand tu postes un truc? C'est-à-dire que le mec, il n'en a même pas parlé à sa famille. Quoi.
Il n'a pas envoyé de mail, il n'a rien posté.
Il a peut-être honte, quoi, il voulait juste voir au cas où.
Mais n'empêche, cette curation de choses, de pépites qui ne sont pas vues, qui ne sont pas propulsées par les médias, etc., c'est quand même un peu historiquement le rôle de Reddit et de plateforme de forum comme ça aussi.
D'aller chercher des.
D'essayer de déterrer des perles.
Mais même, il y a un mimétisme sur Reddit où on va mettre les Imgur, les. Tous les
Imgur,
enfin, il y a aussi un mimétisme, c'est-à-dire que Reddit existe depuis je sais combien de temps, mais longtemps aussi. Et tu vois tous les trucs sur les pages nouveaux en progression. Enfin, c'est souvent les mêmes trucs qui sortent.
Bien
après,
sûr.
Faut aller creuser. dans les subreddits, ouais. Et les subreddits, ils sont mal mis en ouais. avant. Il y en a quelques-uns les plus populaires, mais pareil, il faut aller creuser dans les subreddits comme tu vas creuser dans l'internet.
Ouais, je vous conseille R Gone Wild, mais bon, après, c'est un subreddit très intéressant.
Un truc sur le Far West.
Pas du tout. Ok, bah, je propose qu'on rende hommage à la chronique de Daz. On essaiera de publier cette émission discretos, on le dit à personne, pour faire une 404, zéro lecture. Une vraie émission 404. F-A-Q. Je déconne, hein, on veut devenir les Cypriens du podcast. Hein. Moi, je veux faire le million à chaque fois. Hein. Alors, une petite question. Qu'est-ce qu'on va nous avoir comme question ? Alors, Power Lita qui nous dit « Où sommes-nous ? Je suis un peu perdu dans ce monde-là, moi. » Je vous laisse avec ça. Je pose ça là
et je m'en vais.
Où sommes-nous ?
Aha.
Il y a une deuxième question.
Non, j'aime bien, elle est pas très compréhensible.
C'est pas très numérique,
presque,
ça.
Ouais, elle est presque poétique. Où sommes-nous là ?
Relila.
Où sommes-nous ? Je suis un peu perdu dans ce monde-là, moi.
Elle est adolescente.
Eh bien, écoute, prends ma main. je serai ton guide. Bienvenue sur Internet.
Sylvain qui ne perd jamais l'occasion, bien sûr.
Où sommes-nous là ?
C'est un peu poétique, je voulais vous laisser ça.
Dans une nouvelle société numérique.
Ouais. Dans une nouvelle société numérique.
Non, pas nouvelle, en fait.
Nous sommes. Alors attendez, je réfléchis.
Ah, c'est deep, hein. Oh là là.
Faut
là.
Faut pas
là.
Dire où on est physiquement.
Mindblown.gif.
On est dans le passé parce que tous nos stimuli visuels et sonores mettent quelques millisecondes pour éveiller notre cerveau et notre cerveau est légèrement toujours en retard.
Hashtag Interstellar encore, je voilà, trouve. Voilà,
hashtag astrophysique. Il est vraiment salopard. Il est très fort. Il est très fort.
T'aurais dû le dire avec la voix de Matthew McConaughey, ça aurait été chouette.
Et en plus, on est à double titre dans votre passé, puisque ces mots que vous entendez en ce moment, eh bien, ils ont été enregistrés il y a quelques heures pour certains et quelques jours pour d'autres.
Ouais. Dimanche soir.
Mais par contre, on est dans le futur niveau contenu.
Ça, c'était Daz. Très bien, vous en sortez bien. Sylvain ?
Prends ma main.
Ouais, c'est vrai.
Toujours. Ça, c'était toujours.
Non, pas celle-là.
Ah, ça suffit.
Daz, non. Voilà.
Bon, allez, on va continuer avec Sylvain sur la troisième chronique.
Sujet numéro 3.
Robots et réseaux sociaux, la génération Wally.
Coucou.
Génération Wally.
Alors, est-ce que je dois faire Iva ? Non, pas d'imitation ?
Pas d'imitation, je vais pas peut-être demander à Daz d'en faire une.
Oh là là, on va voir. Okay. Alors, ce soir, on parle de robots avec presque une âme. Mais bon,
on va parler d'espace aussi. Hein. Je pense que c'est un peu le thème de ce soir. Alors, très récemment, vous le savez, l'humanité a fait un énorme bond en avant. Parce que pendant presque 20 piges, les scientifiques les plus bouillants de la planète ont conçu un robot, l'ont envoyé dans l'espace et l'ont fait atterrir sur une comète. Tranquille. Je répète, l'être humain a fait atterrir un putain de robot sur une putain de comète.
Oh, c'est classe.
Et ça, c'est quand même cool. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans cette belle aventure, c'est que le monde entier a pu suivre le largage du robot Philae par la sonde Rosetta sur la comète Chury, en direct sur Internet. Grâce à un live stream d'abord, mais surtout via les réseaux sociaux, principalement Twitter, et d'une manière qui va vous étonner. Fin de l'introduction. Est-ce que je peux avoir un R2D2, s'il te plaît, Daz ?
Je suis spécialisé dans Chewbacca. Hein.
Tu fais Chewbacca ?
Georges Lucas.
Ah, il fait du Chewbacca. Il fait du Chewbacca.
Est-ce que je le fais mieux que toi ?
Oh !
Joli.
J'ai un bon pressentiment chez lui. Donc, la sonde Rosetta et son petit robot Philae avaient chacun leur compte Twitter perso et se tapaient des barres au calme en discutant entre eux à la première personne du singulier.
Ouais, très classe.
Donc au détour de sa timeline Twitter, on pouvait tomber sur ce genre d'échange cordial entre nos deux petits robots. Philae demandait à Rosetta, je me sens un petit peu fatigué, est-ce que tu as récupéré toutes mes données ? Je vais peut-être faire une sieste.
Oh, c'est parce qu'il avait
été... Rosetta lui répond, tu as fait un super travail Philae. Quelque chose qu'aucun vaisseau spatial n'a jamais fait avant toi.
Est-ce que t'avais les yeux en bure en lisant ça ?
Et là, tu mets la petite musique d'Interstellar et tout, et tu fais « Qu'est-ce que c'est triste ?»
Enfin, petite
musique. Déjà en 2012...
Non, ça c'est Inception.
C'est la même chose.
Non, il y a de l'orgue, c'est trop beau.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Arrêtez. Déjà en 2012, laissez-moi faire la clinique. Curiosity, le rover de la NASA qui explore Mars en ce moment même, avait fait sa tweeta en prenant des selfies de blogueuse mode, sans pression.
Avec les chenilles en dedans.
Plus récemment encore, un satellite indien du nom de Mars Orbiter, tout simplement, est rentré dans l'orbite de Mars.
Ouais.
Et on a profité pour faire un coucou à Curiosity sur Twitter.
Ah,
mais genre littéralement. C'est-à-dire que la sonde, le satellite annonce son arrivée dans l'orbite de Mars et Curiosity lui fait « Namasté, Mars Orbiter !» Félicitations à l'agence spatiale indienne pour sa première mission interplanétaire. Un petit peu condescendant, tu sais, Curiosity toujours.
Les Américains.
Côté américain. Et le Mars Orbiter qui lui répond « Hey, comment ça va Curiosity ?» Keep in touch, I'll be around.
Ah, oh, le petit jeu de mots.
C'est
genre,
un jeu de mots.
Parce qu'ils tournent autour.
Tout à fait.
Ah, oh, c'est mignon.
Ouais, ils sont subtils, les Indiens. Si on remonte à la source de ces petits délires de robots, on tombe sur la fascinante histoire de Phoenix. On peut le considérer comme le prédécesseur de Curiosity. Mm-hmm. Parce qu'on le sait peu, mais Curiosity, c'est pas du tout le premier robot à être allé sur Mars.
Quoi? Ouais.
Donc Phoenix est droppé sur la planète rouge en 2008, en plein été martien. Mais un tout petit peu trop près du pôle Nord. Mars.
Ah là là.
Le pôle Nord martien. Sur son compte Twitter, le robot chronique la douceur des soirées martiennes et regarde l'hiver s'installer doucement. Pour info, un hiver martien, à cette hauteur si près du pôle, ça envoie des petits 120 degrés, des petits moins 120 degrés la nuit.
Ah ouais.
Donc c'est un peu winter is coming. Ouais. Et progressivement, Phoenix va commencer à faiblir. Certains de ses outils vont geler.
Oh, c'est tellement triste.
Certains de ses capteurs vont le lâcher. Et comme un membre de sa famille qui annonce qu'il a un cancer, Phoenix va expliquer sur son compte Twitter, avec beaucoup de solennité et d'humilité, qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Et oui, papa perd ses cheveux. je suis désolé. Et qu'il va lentement s'éteindre, calmement, comme une personne âgée qui estime qu'elle a eu une vie bien remplie et qui a rempli sa mission. Ah, et le lender va même aller jusqu'à organiser un concours d'épitaphe en partenariat avec Wired et écrire une lettre d'adieu sur Gizmodo.
Ah ouais.
Les mecs poussent le délire très loin.
Ah ouais, ouais.
Et puis un beau matin de novembre, Phoenix va écrire son dernier tweet, va fermer les yeux et va s'endormir au cœur de l'hiver martien.
Oh.
Salut l'artiste. Son dernier tweet, c'était Triomphe, écrit en binaire, avec un petit cœur à la fin.
Inférieur 3.
Dernier tweet de Mars Phoenix, le 10 novembre 2008. Pour Philae, on revient à Philae, la communauté scientifique ou non, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, s'est émue que la petite bestiole de métal s'éteigne parce qu'elle est à court de batterie, seule sur sa comète. Et donc elle a fait son petit tweet d'adieu. Et les réponses à ce tweet d'adieu sont bizarrement très touchantes en fait. Les gens parlent à un robot, dont le compte est tenu par un humain, et ils lui disent « Tu as vraiment, you break my heart, seriously. Good night little boy and dream of electric sheep. You're the best. » Tu vois, c'est quand même voilà, les mecs sont là,
comme
là
Grégory le Marchal,
les larmes aux yeux, c'est ça,
petit ange
là-haut dans le ciel. Alors ce phénomène pose deux questions intéressantes. La première, c'est pourquoi les agences spatiales font-elles du community management?
Ah, en fait, l'envie à Sylvain Palais là.
Parce que les agences spatiales ont une mission d'éducation des masses. Est-ce que ça fait partie de leur mission d'éducation des masses de faire de la communication autour de leur mission? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour justifier auprès du contribuable la manière dont on dépense les impôts? Je ne sais pas comment ça marche pour l'ESA, mais pour la NASA, effectivement, c'est
des
budgets qui sont votés au Congrès. Donc, je ne sais pas vraiment. J'aurais demandé sur Reddit, ils m'ont pas répondu. En même temps, c'était OK, une question un peu chiante. Je préfère la seconde. C'est super intéressant d'interroger la manière dont on peut donner une âme et une conscience à un objet inanimé, en fait. Et cette façon qu'on a de jouer avec l'imaginaire des robots, des films de science-fiction, comme HAL, WALL-E et plus récemment TARS. Tu n'as pas vu Interstellar.
Accusez-vous, hashtag Interstellar.
Et finalement, cette image du robot parfait, de la machine qui communique, cette image, c'est celle de l'être humain. C'est celle d'un humain. On met de l'humanité dans des corps métalliques. On prête la voix d'un humain. Tu veux me couper? T'attends la fin de ma chronique.
Tu baisses les yeux et t'attends. Tu baisses les yeux.
Et dans ce phénomène presque anecdotique qui est celui du community management des agences spatiales, on trouve les racines du plus vieux fantasme de l'être humain qui joue à Dieu, en fait, fabriquer des êtres à son image.
Tout à fait.
Et je terminerai sur une reco, parce que je travaille dans la publicité. Cher Marc, le jour où vous arriverez à raconter ce genre d'histoire, le jour où vous arriverez à donner une âme et une conscience à un produit uniquement grâce à un compte Twitter, le jour où vous arriverez à faire chialer un tweeto en 140 caractères, vous aurez gagné Internet.
Ah là 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 là. Très bien, très bien. Mais c'est vrai, moi je suis tout à fait d'accord. Enfin, on va savoir pour vous, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions autour de ces robots. Et Curiosity, c'est vrai que curiosité, le fait même de savoir, il y a eu un tweet sur le fait qu'il se rendait pas compte qu'il allait mourir seul sur cette planète parce que personne ne reviendrait le rechercher. Et ça, tout le monde s'était complètement ému, un peu en plus
genre
comme
prise de conscience, effectivement, on l'envoie à l'abattoir. Oui, mais il n'a pas de conscience, mais c'est pas grave, c'est quand même super triste, il est tout seul.
Daz, pourquoi tu voulais couper Sylvain sur cette belle histoire de robot
parce qu'il plus humain que des humains. Il parlait de HAL, qui est quand même une belle saloperie. C'est le premier ordinateur psychotique. Hein,
attends, ne spoilons pas.
C'est ça qu'il est très humain.
2001,
ne spoilons pas, c'est comme Interstellar. No spoil, no spoil.
Tu n'as pas parlé de Johnny Five, je suis un peu déçu.
C'est vrai.
Je suis un petit peu déçu.
Mais pourquoi ça marche autant, cet attachement au robot?
C'est il faut donner figure humaine à tout ce que, enfin, à quelque chose d'a priori inanimé, réussir à transporter de l'émotion.
Mais est-ce que ça ressemble à un de nos sujets de prédilection, qui est un peu slacktivisme, parce qu'à un moment pour emporter l'adhésion et l'activité des gens, et il faut qu'il y ait quelque chose soit un peu ludique, un peu mignon.
Non, mais la limite, dans l'absolu, je terminerai là-dessus.
Mais vas-y, mais ça, tu peux couper Daz après.
Dans l'absolu, on s'en fout parce qu'en fait, l'ESA, quand elle fait ça, ou même la NASA, je veux dire, les budgets sont déjà votés, les trucs sont déjà lancés, donc ils n'ont absolument aucun intérêt à le faire si c'est juste pour la beauté du geste.
Il y a le futur budget.
Mais bon, les mecs, ça y est, ils ont atterri sur une comète, je pense que là, ils vont rester.
Alors attends, Mélissa.
L'ESA, je ne les suivais absolument pas. Déjà, j'étais trop contente de réaliser que c'était une agence spatiale européenne.
Ouais. Journalisme.
Je suis pas spécialiste d'astronomie, dude. Et je les aurais jamais suivis. Imagine le live tweet par l'ESA. Enfin, ça aurait été hyper corpo, hyper chiant, hyper machin.
D'accord.
Et en fait, ça me rappelle un peu l'Instagram des chiens. C'est-à-dire que maintenant, il y a énormément de chiens qui ont leur compte Instagram et qui sont suivis par des chiens avec des chiens qui likent les photos.
Ouais.
Et en fait, c'est un peu.
Sur quel Instagram es-tu?
Elle a raison, mais ça, il y a toute une galaxie d'Instagram de chiens ou de chats.
C'est génial. Genre, ils mettent des photos où ils appellent au nombre de likes, enfin bref, c'est tout un truc.
Et ils parlent entre eux aussi, tout à fait.
J'ai l'impression que c'est la même chose qu'avec les robots, c'est-à-dire que les humains en ont quasiment, enfin, on en ras-le-bol de parler entre eux, parce que bon, ça fait 8 ans, 10 ans qu'on fait ça sur les réseaux sociaux, et du coup, ils transmettent à des choses sur lesquelles ils peuvent fantasmer à mort, et du coup, ça devient des belles histoires qui sont un peu réalité, mais romancées, et ce qu'on peut pas vraiment toujours faire, nous, avec nos comptes d'humains, un peu où on a une ligne, où oui, tu peux raconter des histoires, mais ça vient d'un truc où tu t'attends à voir un récit, alors qu'un chien, non, robot, non plus.
Donc là, on est vraiment dans le storytelling au sens propre du terme. On raconte une histoire, on crée une image, on crée un personnage, même on leur crée une identité. Ils peuvent être taquins, ils peuvent être très sérieux. Ouais. Et ça marche. Fibre.
J'ai une réaction un peu violente.
Oh là là, tu fais l'eczéma, qu'est-ce qui se passe?
Je trouve que c'est vraiment un truc de débile.
Ah, mais pourquoi alors? C'est intéressant.
Imaginez que le directeur de l'ESA, il n'est pas un compte Twitter, il est une petite poupée chaussette, vous savez, il fait coucou, c'est Philae, coucou, et tout le monde fait coucou. C'est exactement ça. Parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est pas les robots qui tweetent, c'est des humains.
Non, Sylvain l'a dit, ce sont des petits comités managériaux, si j'ai bien tout compris.
Or, on a les moyens techniques pour que Philae et compagnie, enfin, pas Philae, mais les robots en question, Phoenix en l'occurrence, nous envoient dans leur langage robot des tweets, ils pourraient le faire.
Oui.
Et nous, comme on n'est pas trop débiles, ou du moins les mecs qui feraient l'effort de comprendre ce qu'ils disent dans les tweets. Et quand Phoenix dit « je suis en train de mourir », c'est un humain qui est en train de mettre ça en scène, c'est dégueulasse. Tandis que si Phoenix, il envoyait vraiment des vrais relevés de température et relevés d'activité, et qu'il
envoie des photos.
Taisez-vous. Et qu'il les mettait en direct. Et que nous, on comprenait la tragédie avec notre intelligence. Et qu'il n'ait pas à dire au revoir, mais simplement les batteries sont à zéro. Mais parce que qu'il n'y a pas l'intermédiaire humain qui met en scène ça de façon grotesque. Et bien là, ce serait de l'émotion pure et ce serait la sollicitation de l'intelligence des gens.
En gros, t'es en train de dire. Non, mais faut donner le scénario aux gens qui vont au cinéma parce qu'ils sont capables de comprendre le scénario machin sans voir tous les acteurs qui mettent en émotion le truc. Non. C'est la même chose quoi.
Mais c'est pas du cinéma, c'est des vrais robots qui sont en train de mourir.
Oui, mais c'est de la communication, il y a eu des JPEG de photos, ça les gens les voient et font genre ouais, c'est trop beau, mais faut les titrer, faut les agencer, c'est comme le journalisme. Ben, tu pourras aller je sais pas en Irak et voir le truc arriver ou on te
dans ce cas-là tu as un autre média, c'est l'article de journal, c'est très bien, le communiqué de presse, voilà ce qui est arrivé à notre robot. Mais quand c'est le robot qui parle, et ben qui envoie le truc de
forme du truc quoi. Ils sont pas dupes. Bon, ils se disent pas, oh là là, le robot il parle, ils savent que c'est des gens derrière.
Et alors pourquoi
il y a des Mongoliens
mais
partout
si, là, je mais vraiment, franchement, et ça c'est le problème de la science cool, on a déjà fait une chronique là-dessus. Il y a des tas de gens qui disent, ah, l'espace c'est trop cool, et ça s'arrête là leur réflexion. Et à un moment, il faut vraiment savoir de quoi on parle. et pour se renseigner et être vraiment fan au sens où on voudrait l'être. Donc, et c'est pas aussi compliqué intellectuellement.
Donc là, tu râles un peu sur une sorte de faux, de faux fans ou de fans un peu du moment.
Les mecs,
ils sont pas vraiment tant fans de science que de fans de petites histoires rigolotes, quoi, finalement.
Mais en plus, c'est
t'as l'impression que la science se vend un peu.
C'est des victimes. C'est la mise en scène à l'américaine qui est à mon avis de mauvais goût. Et vous verrez que justement, on parlait des chroniques dans 2025, on se retournera là-dessus. On disait nos papas, ouais, ils étaient un petit peu, voilà.
Oui, mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont intéressés à Philae qui ne seraient jamais intéressés.
Oui, mais donc c'est pour plaire aux masses, on est d'accord. Et là, je rejoins le point de Sylvain, c'est l'éducation des masses et ça passe par Twitter.
Oui. Donc t'es plutôt pour.
Non, moi je comprends la démarche et je l'apprécie, mais je comprends aussi le point de Fibre et puis de tous les vrais astrophysiciens qui se sont fait chier à faire 127 ans d'études pour au final qu'on définisse leur travail par un tweet pourri qui dit
je suis arrogant. Oui, mais
il y a plus. Ils vont sur astrophysique.wallerblog.com et ils ont de la vraie info.
Non, non, je suis désolé, c'est pire que ça. C'est la désinstruction des masses parce qu'on fait croire qu'un robot est capable de parler, de dire ça et d'avoir des émotions, ce qui est faux. Et s'ils savaient la vraie vérité, la vraie chose qui se passe, ce serait encore plus émouvant. C'est encore plus génial quand on comprend vraiment les choses.
Dave, j'aimerais tellement que Philae envoie un petit tweet à Fibre en disant tu m'as beaucoup blessé sur ce que tu viens de dire.
Allez, on peut y arriver, je pense.
On s'arrête là-dessus. Bisous à Philae.
FAQ.
Alors ça tombe bien parce que la fac qui arrive par le Philae. Non, je déconne. Non, je déconne. Encore un peu de futurologie, de prospective, tout ça. Mademoiselle Alexis Gru. Il y a un jeu de mots ou pas ? J'avais un truc de cirque ou je me gourre ?
Non, ça c'est Grusse.
Alexis Gru ou Coxy Gru, je sais pas. Bon, Alexis avec un E donc, nous demande quel équipement technologique ringard portera ou utilisera le hipster du futur ? Alors, l'oreille Bluetooth.
Motorola l'a fait.
L'oreille Bluetooth c'était l'hipster d'hier, les Google Glass c'est l'hipster d'aujourd'hui. Alors le hipster Trouduc de demain, qu'est-ce qui, à votre avis, portera comme gadget technologique ?
Le Segway.
Le Segway, nous dit Sylvain.
C'est vieux le Segway.
Le Segway, c'est parfait.
Ça existe déjà aujourd'hui.
C'est le truc le plus ringard.
Non, le futur.
Ah, mais dans le futur.
Non, mais elle parle de hipster, elle parle pas de beauf.
Oui, je pense que hipster au sens forcément un peu ironique, parce que c'est hipster, mais un peu beauf, quoi.
D'accord.
Un peu j'en fais trop.
Bah, voilà.
Depuis Guardian of the Galaxy, on voit quand même un petit comeback de la cassette audio.
La cassette audio.
Et c'est peut-être un début de cycle.
Ah, tu penses que la cassette audio va revenir chez comme les vinyles,
la compile, le fait de que ce soit pas, ce soit toujours magnétisé, la mécanique, voilà.
D'accord. Donc pour toi, Fibre, le hipster du futur, son oreille Bluetooth, ce sera la cassette audio. Très bien. Alors à vous, qu'est-ce que vous pensez comme objet ? Est-ce que ce sera, je sais pas, une montre,
un collier connecté, un wearable, ça c'est sûr. Sous Android, ça c'est certain.
J'ai vu des bijoux. Mais t'as ta réponse, là, c'est ça, c'est un truc sous Android.
Un truc sous Android, n'importe quoi, une casquette Bluetooth, je sais pas ce qu'ils font les mecs. Mais...
Ah, c'est pas vrai, c'est une casquette Bluetooth.
Oh, il y a du soleil. Ah, bah, d'accord,
c'est bizarre, il y a deux personnes qui portent des casquettes à cette table aujourd'hui.
Ils s'en foutent de savoir l'objet tant que c'est Android, de toute façon, ça va être
un regard. Voilà.
Oh putain.
Toi qui portes une casquette et qui est sous Android, Sylvain. Est-ce qu'il y a un objet ? Est-ce que tu t'imagines un truc ? Le Segway, t'as pas le droit, mais peut-être un Segway du futur.
Un petit Segway du futur. Ouais. Franchement, je sais pas trop. Hein.
Non, il y a
peut-être,
pas.
Peut-être le casque micro.
Le casque micro ?
Ouais. C'est-à-dire écouter de la musique dans le métro avec des gros casques de gamer, tu sais.
Ah là là.
Avec des gros casques Razer. Ouais. J'en vois des fois.
Ils sont en avance. Je commence à voir des mecs effectivement qui ont des casques gamer, des trucs avec des LED énormissimes là, double arceau et tout dans le métro.
Avec le gros micro comme ça sur le cerveau.
Ah, c'est pas mal, c'est bien dégueulasse. Ça. Mélissa, est-ce que t'as un objet en tête, quelque chose
Un Fitbit, le truc qui mesure nos.
Attends, tu détestes ça, ces sortes de bracelets de tracking.
Je comprends pas trop l'intérêt. Et j'imagine que dans 10 ans, ça sera complètement dépassé, qu'on aura genre la version 12 de ce truc-là. Ouais. Du coup, il y a des gens qui reviendront au Fitbit simple,
le
noir,
gros Fitbit.
Là.
Un peu comme Sylvain s'achète des vieilles montres aujourd'hui.
Voilà. Et qui feront genre, t'as vu, comme l'espèce de fil rouge que les mecs ont, là, je sais pas quand est-ce que c'est revenu, bah là, ce sera juste.
Toi, tu reviens au bracelet tracker d'aujourd'hui. Bon, ben voilà, vous savez quoi ne pas porter dans 10 ans.
Sujet numéro 4.
En désactivant les pubs, vous sentez-vous soulagé ou coupable ?
Ah là 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 là. Alors, Mélissa flingue sa profession épisode 10, saison 3.
Je dis le paradoxe de ma profession. Ouais.
On va parler de la pub sur Internet et surtout de notre manière de la désactiver et donc un peu de tuer tous les sites qu'on aime bien mais qui vivent là-dessus. Donc c'est un peu un rapport un peu paradoxal, c'est ça ?
Nous sommes en plein paradoxe.
Voilà. Paradoxe temporel.
Est-ce que c'est intergalactique? Daz va s'énerver. Non, je vais vous dire une chose. J'ai Adblock sur mon navigateur. Mm-hmm. Ce qui veut dire qu'en gros, quand je vais sur un site, bah, je ne vois pas les pubs qui apparaissent.
D'accord.
Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'en avais marre en fait, de voir ces pavés qui clignotent, ces bannières, ces habillages qui rendent n'importe quel site moche et illisible, disons-le.
Conduit avec amour par Sylvain Pardon, dans l'ombre.
Je vous montrerai bien des captures d'écran, mais vous savez tous de quoi je parle, puisque ces pubs sont là depuis les débuts de l'Internet, quand certains se sont dit hey, « Eh, mais appliquons le modèle de la presse papier et mettons de la pub partout !» Sauf que 10 ans après, donc c'est toujours laid. On détourne souvent le regard devant ces créations que même les graphistes doivent vomir ou un pré-roll de 30 secondes qui nous dégoûte d'avoir envie de regarder cette vidéo avant une vidéo donc YouTube, Dailymotion, choisissez ce que vous voulez, Canal+ aussi.
Oui.
Canal+, très très bon. Hein, qui, ouais, vous changez d'anglais, vous retapez quoi.
Top of the
faut
pop.
Vraiment être hyper motivé pour regarder une vidéo Canal+. Le problème, c'est que certains de ces sites se sont rendus compte que je n'étais pas la seule à avoir Adblock. Alors, petit truc marrant quand même, la CNIL vous conseille d'avoir un bloqueur, ce qu'ils appellent un logiciel de blocage en bon français.
Ah bon? Carrément.
Il y a des tutos, il y a un tuto sur le compte YouTube
où, les filles,
où la CNIL,
c'est la CNIL.
Vous fait comment installer un logiciel de blocage. Donc en gros, c'est la CNIL qui dit comment tuer le modèle économique de la moitié des sites internet français.
Je vois bien un petit robot incarné.
C'est CNIL. Mais donc ils s'en sont rendus compte et donc maintenant ils vous demandent explicitement de désactiver Adblock parce qu'ils voilà, ils savent. Et donc l'équipe, par exemple, le journal Le Quotidien de Sport, leur site est l'un des premiers sites de médias français, 61 millions de visites en octobre 2014. Et eux, il y a carrément là où il devrait y avoir la vidéo, il y a genre désactiver Adblock avec un truc horrible, une croix rouge. Enfin bref, c'est horrible. Et là, vous dites non, je suis mal, je me sens mal, faut que je regarde cette
vidéo. Du coup, ils te coupent le contenu, quoi. Ils disent voilà, pas de contenu.
Ouais, c'est ça. Faut y aller, faut la subir la pub. Mais on en est arrivé là. Pourquoi en fait? Parce que un, nous utilisateurs, internautes assidus, ne cliquons jamais sur ces pubs.
Non.
Voilà, je mets vraiment jamais. Si vous l'avez fait, bravo. Enfin, peut-être Sylvain pour tester.
Non, je ne sais pas du tout ce qu'il y a derrière une bannière, en fait. Personne ne sait. Hein. Ça se trouve, tu tombes sur un truc de fou.
Peut-être des vidéos à zéro vue.
Deux, le problème, c'est que ces pubs, en fait, sont à peu près le seul modèle économique de nombreux sites internet, ce qui fait qu'elles sont toujours là, donc on n'a pas trouvé la solution. Et trois, les annonceurs savent que ça ne clique pas, donc ils ne payent rien du tout pour ces pubs. Ce qui fait qu'on est dans un mindfuck total où, genre, tout reste, personne n'est content.
D'accord.
Cercle vicieux, total. Mais les résultats, donc on a toujours ces vieilles pubs. Des fois, il y a des petits trucs qui se créent en ce moment. Donc, on parle souvent de native advertising, ce qui correspond en gros à, par exemple, un article BuzzFeed typique de BuzzFeed, genre une liste, qui va être sponsorisée par Harris.
D'accord.
Genre sur les grippins, j'en sais rien, ils vont faire les 10 grippins ou les 10 tranches, trucs trop drôles. Voilà.
Jésus est apparu sur cette tranche.
Ou alors des bannières en 3D. C'est Sylvain qui m'a parlé de ça via sa merveilleuse newsletter la veille du lendemain.
Ouais.
Ah, c'est merci.
Ou des petits malins de Mercedes qui vont faire une pub dans la bannière et servir de la bannière pour la mettre dans un coffre de voiture. Enfin, il y a plein d'exemples où les mecs essayent quand même de faire des trucs avec leur bannière, mais à la fin, il reste cette putain de bannière, quoi. Donc tout le monde est insatisfait. Et là, Google se dit, attendez, j'ai une idée.
Ah.
On va faire comme pour les jeux vidéo, c'est-à-dire que...
On va faire du freemium.
Il y a de la pub, mais vous allez payer pour ne pas avoir la pub. Ça, c'est quand même...
D'accord.
Et bon, en fait, ça existe depuis assez longtemps, parce que par exemple, Spotify, vous payez pour ne pas avoir la pub en québécois.
Quand vous
écoutez votre musique.
C'est le freemium. Hey,
c'est le freemium, on en revient au sujet de Fibre. Après, il y a la version intermédiaire qui est Adblock Plus, qui est genre, on vous cache les grosses pubs dégueulasses, mais on laisse quelques pubs parce qu'on a bien conscience, au fond, qu'il faut qu'on gagne du fric, enfin que les sites doivent gagner du fric. Et on
ce sont les marques
sites.
Qui payent Adblock pour être sur la whitelist. C'est magnifique comme business.
Ouais, c'est l'extorsion. C'est ça. Vous voulez être sur la whitelist? Ouais, bah, il va falloir nous donner.
Voilà. Donc vos pubs apparaissent.
Donc
il y a Mashable, il y a quelques sites américains qui sont déjà en train de tester ça. Mais en fait, à la fin, nous, on est toujours pas très contents. Il n'y a toujours pas de modèle économique. Et donc le seul modèle économique pour l'instant qui a été trouvé, c'est genre, bah, en fait, il faut que l'internaute y paye directement. Ouais. C'est-à-dire que moi, dernièrement, j'ai donné $40 à ce podcast dont pas mal de gens parlent, qui s'appelle Serial, qui est un podcast américain qui a refait un procès, où une journaliste fait ça, et tout le monde adore, et tout le monde a écouté, et tout est gratuit au départ, parce qu'un producteur a mis de l'argent, mais la deuxième saison n'existera que si les internautes donnent de l'argent. Et les internautes ont donné assez d'argent. Et donc, en fait, on a l'impression qu'on a envie de donner pour la création, mais on n'a pas envie de subir la pub. Par exemple, nous, Studio 404... on est la preuve vivante que le gratuit sans pub, bah c'est nous quoi. Enfin, on a toujours connu Internet comme ça. Ouais. On est ici à enregistrer sans pub, sans revenu pour le plaisir, et on aimerait consommer ce truc comme ça sans avoir à rajouter de la pub pour survivre ou pour gagner de l'argent.
Sauf
pour,
que le jour où on veut gagner de l'argent, ça sera compliqué.
Voilà, le jour où il faudra gagner. Enfin, on aura peut-être des pubs Whiskas au milieu de l'émission. Et on l'assumera parce qu'on aime les chats. Mais c'est enraciné en nous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on est en train de réapprendre avec Google Contributeur, l'initiative de Google, à payer pour la qualité ou au moins de la qualité sans le bruit. Ou de la qualité sans le graphisme à deux balles des bannières et des habillages.
Ah, donc attends, tu penses que pour échapper à l'époque, à l'ère Google des pubs et des AdWords partout, il va falloir faire confiance à Google ?
Après, c'est un test.
C'est beau,
Google
ça.
Contributeur. Non, mais c'est assez mindfuck ouais. Parce que c'est quand même c'est genre, il y a de la pub, Google affiche de la pub quand même.
Oui, bah oui.
Google Ads. Et on va vous faire payer pour ne pas l'afficher.
Et ils remplacent toutes les bannières par des messages avec marqué merci.
Si on en est arrivé là, c'est parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autre, quoi. Et ça, c'est flippant de dire, en 10 ans d'Internet, il n'y a pas eu.
On est resté au système, ce qu'on appelle le display, c'est tu t'affiches de la pub à gogo.
Parce que la pub télé, machin, il y a des trucs très beaux et les gens sont habitués, mais sur Internet, vraiment, les gens, ça s'imprime pas, quoi.
Et toi, Mélissa, est-ce que tu culpabilises pas des fois de te dire que, effectivement, la pub te fait chier, mais tu lis beaucoup de sites et t'aimes beaucoup de sites de contenu, mais d'une certaine manière, tu les pénalises, voire tu les tues, comme des millions d'internautes qui utilisent des bloqueurs de pub, en les empêchant de manger?
J'ai désactivé Adblock sur certains sites. Ouais. Et encore une fois, je paye de nombreux abonnements à des médias en me disant oui, c'est de la qualité, donc il faut payer pour la qualité.
Ça, c'est la bonne conscience, ça.
Non, mais donc tu fais quand même partie donc, de cette génération qui se responsabilise, on va dire, par rapport au contenu.
Après, j'ai les moyens. C'est-à-dire qu'il y a toute une frange qui utilise Internet pour faire plein de trucs et justement, ça leur donne la possibilité de le faire parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mm-hmm. Et ceux-là, je pense qu'ils ne mettront jamais de l'argent.
Parce que la même manière que 40 euros par-ci, 40 euros par-là, même si c'est par an, ça commence à
Et en même temps, je stream des séries où il n'y a aucune pub, enfin où toutes les pubs ont été enlevées, tous les génériques ont été enlevés parce que je veux le gratuit sans pub, sans rien, juste le contenu.
Donc t'es un peu
le plus pur.
T'es un peu des deux côtés de la chose. D'un côté tu te sens un peu moral et responsable, et de l'autre côté tu dis fuck. Tu vas en mode tu feras tout sans rien payer.
On n'a pas été capable d'inventer un modèle ou un truc, un moyen de gagner de l'argent qui soit propre et j'espère qu'il y a des gens qui y réfléchissent quelque part. Nous on y réfléchit tous, mais. Enfin, c'est pas intelligent.
Toi
qui
es dans la profession, c'est compliqué encore pour tous ces sites de contenu de gagner de l'argent.
Bah ouais, parce que c'est de la diversification, c'est de l'événementiel. Mais les gens sont habitués à ne pas payer pour le contenu. Donc,
Slate pour ta bar mitzvah. Ouh, c'est bien tous les journalistes.
Nous sommes un restaurant.
Fais venir Mélissa.
Moi je vous juge, je me permets de vous juger tous autant que vous êtes là. Oui. Parce que...
T'as de l'oc, Daz ?
Non, je l'ai pas.
C'est vrai, t'as pas de bloc.
Non, j'ai
pas
de bloc.
Toutes les pubs.
Bah en fait, j'estime qu'à partir du moment où. Moi, j'ai pas. Donc
qui a Adblock ? T'as le bloc ?
Moi, j'ai Adblock.
Moi, je viens de l'installer et je viens de le désinstaller.
Et ben, c'est ça. C'est 20% de la population.
Moi, je l'ai pas et simplement parce que j'estime que, puisque on met de l'information à dispo gratos.
Il faut bien que ça paye un moment.
Bah ouais.
D'accord.
Donc, voilà. Après, effectivement, les pubs super LED en overlay. Jeu de mots.
Qui apparaissent par-dessus.
Qui apparaissent au-dessus du texte, etc. Avec la croix pour la fermer, impossible à trouver.
Qui est jamais au même endroit.
Voilà, c'est super lourd. Moi, quand je vois ça, en fait, je ferme le site et je reviens plus jamais.
D'accord.
Mais c'est ça aussi, c'est qu'en fait, ils sont tellement contraints, les sites, qu'ils en remettent de plus en plus. Il y a de plus en plus de couches de
Parce que les annonceurs les achètent pas assez cher. Ouais.
Et donc, du coup, c'est des trucs de plus en plus intrusifs.
Je pars du principe que si tu consommes un truc sans raquer, à un moment donné, si le mec essaie de se financer en mettant un poster, tu vas dans un gars qui t'offre un repas chez lui, il a un poster sur son mur, tu fais non je déteste ça. Non, ben non, d'accord. C'est la déco, j'y touche pas quoi.
Ok, d'accord. Donc toi Daz, tu joues les règles du jeu, tu les acceptes.
Normal.
Sylvain, si c'est gratuit, c'est qui le produit?
C'est moi le produit. Non, moi j'ai
Sylvain
pas d'adblock.
Qui bosse dans la pub du
J'ai
coup.
Pas d'adblock, ouais. Je bosse dans la pub et en plus je bosse dans les médias, donc c'est vraiment mon problème de prédilection.
Bien, ouais.
Adblock, je l'ai pas installé parce que moi déjà je veux un web sans filtre.
Ouais.
Je veux pas que quelqu'un me désaffiche des trucs.
Ouais.
Et puis parce que c'est le seul modèle économique valable sur Internet. Mais c'est marrant parce que moi je pense que les gens installent Adblock pas parce qu'ils sont allés sur un site, sur un média où il y avait trop de bannières. Ils l'installent d'abord pour le pré-roll de YouTube, je pense.
Ouais.
Et ensuite parce qu'ils ont 1500 malwares sur leur putain d'ordinateur avec des barres de navigateurs qui se rajoutent des trucs comme ça et que dès qu'ils cliquent sur un lien, ça ouvre un pop-up et ils pensent que c'est Internet qui est comme ça.
Ouais.
Alors qu'en fait, ils ont des virus et des conneries blindées leur PC. Donc ils se foutent un petit adblock et ils sont tranquilles. Moi, d'accord. Je pense que ça vient surtout oui. de là.
Ah, tu penses qu'en fait...
Un peu d'inhibitude. Ouais, ouais.
Je pense pas que ce soit une sanction, que les gens se disent « Ouh là là, j'en ai marre de la pub sur lemonde.fr, je vais installer Adblock, je vais sanctionner les médias. » Je pense pas que les mecs aient cette démarche. C'est juste qu'ils ont des virus et des malwares dans tous les sens.
Ok. Oh, c'est intéressant, parce qu'on en parlait moins. Fibre, qu'est-ce que t'en penses?
Alors, je n'ai pas Adblock non plus, plus pour avoir un PC virginal, où j'ai juste Chrome.
Ouais, c'est bien.
Et bah, du coup, c'est plus très vierge ton PC, c'est à Chrome. Je veux dire qu'il a pas mal de petites, bon. De petites MST.
Et ouais. Sinon, je comprends pas du tout le Beans avec Adblock et les pubs, parce ouais. que je trouve que sur Internet, les pubs ne sont pas du tout intrusives.
Ah, tu trouves pas, toi, du coup?
Parce que, par exemple, moi, je consomme surtout, on va dire, des films et des jeux vidéo. Mm-hmm. Et donc, quand je vois une vidéo de jeux vidéo, souvent, j'ai une pub pour jeux vidéo avant, mais ça m'intéresse.
D'accord.
Bizarrement. Je clique pas, mais en tout cas, je le regarde, c'est joli. Et les pubs ne nous empêchent pas de voir le contenu. Elles coexistent au contenu et tu peux diriger tes yeux vers le contenu plutôt que vers les pubs. Et on est loin des tunnels... sur iTélé et BFM TV où si tu zappes à 12h50, tu as 10 minutes de pub avant 5 minutes d'info.
C'est vrai que sur Internet, la pub se consomme qu'à l'unité.
RMC à 8h du matin, d'affilée. Mais tirez-vous une balle. Je veux dire, vous n'avez que de la pub, c'est insupportable. Et sur Internet, si vous voulez pas avoir de pub, bizarrement, bah allez sur Internet. Voilà.
Ouais. Non mais toi aussi, tu es sur l'industrie du jeu vidéo. Et c'est vrai que dans l'industrie du jeu vidéo, il y a de l'argent. Donc je pense que du coup les pubs pour le jeu vidéo sont aussi très très belles, mais quoi. Daz, et elles vont au cinéma.
Oui, c'est
et...
vrai, mais Daz avait parlé du darwinisme des sites, et effectivement l'Express, je voulais en parler parce que tu en as parlé tout à l'heure. Quand tu vas sur l'Express sur l'iPhone, c'est une plaie parce que voulez-vous les cookies? Oui, non. Voulez-vous télécharger l'application? Oui, non. Et après pub. Moi, je sais que je clique plus sur le lien l'Express à cause de ça. Si vous nous entendez, l'Express, voilà.
Bien sûr qu'ils nous entendent. Toute la France nous entend.
Non mais
donc toi, en fait, c'est intéressant, Philippe, parce que ce que tu dis, c'est que d'une certaine manière, toi, tu ne compares pas par rapport à ton utilisation, mais tu compares par rapport aux médias traditionnels. Tu dis que c'est quand même déjà un progrès par rapport aux médias traditionnels. Il y a quand même moins de pubs.
La radio et la télé, c'est incroyable.
Elles ont une thématique intégrée à ta navigation. Il y a des gens qui détestent ça parce qu'ils ont l'impression d'être espionnés. Toi, tu dis bah au moins ça suit mes intérêts.
Je continue à lire mon article en plus.
Il y a bien des pré-rolls un peu relou, quoi. Genre un pré-roll de 30 secondes pour un teaser de 30 secondes. Tu fais ouais, ok.
C'était le problème de Bref sur Canal+. C'était le pire du pire.
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais regardé un seul épisode sur ce site. La plateforme vidéo Canal+, je la trouve dégueulasse.
Bon, c'est vrai que là, ça allait quand même très très loin. C'est qu'en gros, on peut pas mettre pause. Si on change d'onglet, ça se met en pause. On
coupe le son, ça se met en pause. T'es obligé de la regarder.
C'est une plaie.
C'est incroyable.
T'es obligé de rester devant.
Il y a une technique, je crois. C'est au moment où tu lances la vidéo.
Tu
mets une passe d'onglet. Il faut changer l'onglet super, super rapidement, en fait, avant que le pré-roll se lance. Et il paraît que ça marche. C'est comme les PlayStation piratés. Il fallait laisser le CD tourner avec le couvercle
ouvert du player.
Tu fais un contrôle à la sup, tu mets une claque à ton moniteur.
Supprime le dossier Windows.
Mais finalement, ça m'étonne parce que je pensais que vous seriez tous plus vraiment anti-pub. Vous avez des adblocks, c'est vraiment relou et tout. Puis en fait, finalement, vous avez accepté quand même plus le jeu.
Ouais. Et moi, par contre, alors j'ai pas adblock, mais d'un autre côté, je suis pas abonné premium sur aucun truc.
Ouais. Oui. J'estime donc toi, t'es en mode gratuit, pingre, ouais. Pub.
Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai la pub, mais c'est normal, je l'accepte. Voilà. Et si jamais c'est vraiment trop intrusif, le site, j'y vais un plus jamais, et tant pis. Voilà.
D'accord. Bon, l'Express, tu nous entends. Hein.
L'Express ou... attends, il y a un autre site aussi qui m'a passablement cassé les rouleaux, là. Enfin, je sais plus quel est ça, mais j'ai dit, mais plus jamais de ma vie. J'ai un petit tableau Velleda à côté de mon ordinateur. Je n'en sais plus jamais. Je l'ai rayé.
Tu te tatoues tes victimes sur le bras. L'Express.
Bon, en attendant qu'on trouve une solution, on te suit, Misa. Soyez responsable, payez pour ce que vous aimez.
Ouais. Ah, je pense qu'on a envie de payer, quoi. On a envie d'avoir envie de payer.
L'envie d'avoir envie d'aimer.
Ouais,
salut, Johnny.
FAQ.
Allez, une dernière question, elle est de Johnny. Non, je déconne, elle n'est pas de Johnny. Elle est de Axel Rock, ça aurait pu être presque Johnny. Hein.
Ah ouais.
Axel Rock qui nous dit, vrai ou faux, il y a 10 ans, 10% des gens utilisaient les nouvelles technologies et 90% d'entre eux les comprenaient. Aujourd'hui, 90% des gens utilisent des technologies, mais seuls 10% d'entre eux les comprennent. Voilà.
Alors, Emile.
On se croit dans le professeur Layton.
Comment on définit une nouvelle technologie?
Exactement. On peut tromper 10 fois une personne. Alors, est-ce qu'à l'époque, moins de gens utilisaient les technologies, mais beaucoup de gens, parmi ces gens qui les utilisaient, les comprenaient? Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise les technologies, mais une minorité seulement les comprend?
Je suis d'accord.
Alors, Daz, t'es d'accord?
Je suis d'accord parce que c'est le but de la techno, c'est de devenir transparente et donc d'être utilisée par tout le monde.
Sans que les gens la comprennent, exactement.
Sans que les gens la comprennent, ouais.
D'accord.
Et effectivement, si t'avais un téléphone qui allait sur Internet il y a une dizaine d'années, peut-être un peu plus même, fallait te faire chier avec les APN et tout plein de trucs un peu techniques pour réussir à te connecter à un portail WAP. Donc il fallait savoir ce que c'était que le WAP, alors que maintenant tout le monde a un iPhone et tout le monde sait activer le Wi-Fi et machin, et puis personne. Enfin, quand je vois des gens qui entravent absolument rien à rien faire des points d'accès Wi-Fi avec leur téléphone pour connecter leur ordinateur de manière complètement simple, je me dis que les mecs ont gagné, quoi.
D'accord. Donc pour toi c'est vrai, mais c'est une bonne chose.
Et c'est une bonne chose, ouais. Très bien. C'est le but, ouais.
Ok, super. Mélissa, Sylvain.
Je suis d'accord avec Daz, en fait.
Plutôt d'accord.
Plutôt d'accord. Il y a 10 ans, non, mais, 90 personnes...
Non mais justement, les 10% qui utilisaient les nouvelles technologies, dans ces 10%, 90% les comprenaient.
Oui, voilà, ça. C'est que
c'est-à-dire qu'il n'y avait que des experts, en fait.
Ouais. C'est ça.
Ils étaient peu, mais il n'y avait que des experts.
Maintenant, il n'y a que des noobs, et c'est cool. Ça veut dire que, ça veut dire que c'est bien pensé.
Après, j'aime... En fait, je pense faire partie des 10% qui comprennent, et ça me fait chier quand les 90% restants m'appellent pour remplacer la cartouche de l'imprimante.
Ah, on a tous des parents.
Hein. Ouais, ça fait quoi.
C'est un peu, voilà.
Tu es un
fibre.
Ma théorie est que les pourcentages sont restés les mêmes. C'est-à-dire qu'on est toujours à 10% de personnes qui utilisent des nouvelles technologies.
Ah ouais, tu penses.
Mais aujourd'hui, les nouvelles technologies, ce n'est plus Internet. Internet, c'est vieux. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, les nouvelles technologies, c'est par exemple... on va dire, je peux même pas vous dire, ouais, les wearable devices à haut niveau, tu vois, comme les Google Glass. Effectivement, il y a très peu de gens qui l'ont. Et parmi ceux-là, 90% des gens les comprennent.
Toi, oui, effectivement, ce que tu dis, c'est qu'en fait, la question est fausse parce que les nouvelles technologies d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui.
Ouais.
Exactement. Les NTIC, comme on disait quand on était à l'école.
En 2014, il faut peut-être arrêter d'appeler Internet aux nouvelles technologies. Oui.
Hein. C'est vrai. Et toi, Mélissa, plutôt d'accord du coup ou pas d'accord?
Plutôt d'accord, mais nous restons une élite. non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai qu'on continue de s'appeler les geeks. Enfin tu vois, nous on a l'impression que c'est grand public, mais enfin nous quand on explique qu'on travaille sur Internet en tant que média, la plupart des gens ils disent ah mais c'est pas des robots. Tu vois, c'est genre, alors que c'était un média quoi. C'est pas genre de la technologie. Écrits, hein. Donc c'est genre, à partir du moment où t'es Internet, t'as encore.
Écrivez mieux, on vous comprendra plus.
Tu savais sur
langue, tu aimes slide.fr, je le sais.
Oui, je sais.
Et tu aimes Philae ou pas?
Hein?
Tu aimes Philae?
Je l'apprécie, hein. Oui. Je l'apprécie, ouais.
Bon, on va arrêter de parler de Philae parce qu'on est 90% à pas comprendre comment ça fonctionne et ça énerve énormément Fibre qui est le 10%. Allez, on se quitte là-dessus.
Studio 404, l'émission de société numérique.
Ça m'a fait plaisir de vous voir, les amis. C'était bien.
Oui, c'était super.
Ouais.
C'était bien.
Retour de l'émission audio.
Voilà, chers auditeurs, désolé du retard de ce mois-ci, mais on a eu des questions très compliquées et complexes sur notre avenir et des choses. On vous en parlera peut-être sur la page Facebook lorsque Fibre voudra taper du poing.
ce qui arrive souvent.
Mais bon, on a plein de choses intéressantes devant et derrière nous. Vous saurez bientôt. Vous saurez bientôt en tout cas. En tout cas, on espère que vous avez apprécié cette écoute. On espère que vous irez quand même voir le film Interstellar parce que contrairement à ce que vous pensez, ça ne parle pas de pop-up dans l'espace, mais bon, c'est très intéressant. Et on espère en tout cas vous revoir peut-être pour une émission avant Noël. Hein. Ce serait bien, non?
Ce serait chouette. Ouais.
Fibre
chouette.
Fera tout pour
dans
ça.
3 jours.
Dans la foulée.
Allez, des gros bisous et merci à notre réalisateur Ghislain. Ciao.
Ciao.
Salut. Bye.
Burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.